Le paddock RMC, Jean-Luc Roy.
Salut à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau paddock RMC à la suite du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, un circuit mythique, théâtre du premier Grand Prix de Formule 1 disputé ici le 13 mai 1950 sur cet ancien aérodrome de la RAF utilisé pendant la fameuse bataille d'Angleterre au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Avec moi, pour analyser toutes ces péripéties, l'homme qui passe de 2 à 4 roues avec maestria, Paul Lafitte. Salut Paul.
Salut Jean-Luc, salut Hamza, bonjour à toutes et à tous.
Et puis un autre regard passionné et acéré surtout sur ce Grand Prix, celui d'Hamza Rahmani. Merci d'être avec nous Hamza.
Ça va ?
Bah ça va,
on
très bien.
On a passé un bon moment.
Jusque là ça va bien. Non, on va passer un très bon moment. Et puis on n'oublie pas surtout Nicolas Ledru pour la prod et Nicolas Goussin à la Réal. Alors cette bataille d'Angleterre, je vais vous la servir pendant toute l'émission, rassurez-vous. Cette bataille d'Angleterre avait déjà commencé pendant les qualifications avec une météo typiquement britannique dont avaient profité les trois Anglais du plateau, comme par hasard, Russell, Hamilton et Norris. Il n'y a pas de hasard. Et ce Grand Prix a été également affecté par la météo, ce dont a profité Lewis Hamilton, parti deuxième avec sa Mercedes grâce à une stratégie impeccable, et c'est dommage pour Russell, qui a dû abandonner peu après la mi-course. Une nouvelle fois, les McLaren étaient très rapides avec Norris qui finit sur le podium et Piastri juste derrière son équipier. Verstappen s'est battu comme un lion pour revenir à moins de 2 secondes du vainqueur sous le drapeau à damier, mais sa Red Bull marque toujours le pas. D'ailleurs, Perez termine 17e après être parti des stands. Sainz sauve l'honneur de Ferrari avec une modeste 5e place, mais bien loin des leaders, et Leclerc a sombré depuis sa 11e place sur la grille pour finir 14e. Hülkenberg, à nouveau 6e, démontre que les As sont bien là et les Aston de Stroll et Alonso redressent un peu la tête juste derrière. Et on va quand même en terminer avec ce sommaire qui est long, je sais, mais il s'est passé plein de trucs. 2 points pour Albon et sa Williams, le dernier point pour Tsunoda et la RB. Voilà pour cette bataille d'Angleterre à peine perturbée par la météo. Et avant d'entrer dans le vif du sujet avec Paul et Hamza, une petite prod signée Nicolas Ledru. On s'élance maintenant sous les ordres du starter et c'est George Russell qui a signé le meilleur départ devant l'autre Mercedes, celle de Lewis Hamilton, derrière Lando Norris qui conserve pour le moment la troisième position au détriment de Verstappen et Piastri en quatrième position se bouscule un peu dans l'enchaînement de virages qui suit ce départ de Silverstone. Mais pour le moment tout s'est bien passé, je ne vois pas de morceaux de carbone. On a 3 pilotes de 3 équipes différentes en 4 secondes. Rien n'est joué Christophe, là, à maintenant 5 tours de l'arrivée.
Ça y est, Lewis Hamilton va remporter enfin un Grand Prix, ça n'y était plus arrivé depuis 3 ans Jean-Luc.
Mais oui Christophe, absolument incroyable, il va boucler donc le dernier tour et voilà, il passe maintenant sous le drapeau d'Amier, magnifique victoire. Effectivement, il n'avait pas remporté le Grand Prix depuis le Grand Prix d'Arabie Saoudite en 2021, presque 3 ans. C'est la 104e victoire de la carrière de pilote de Formule 1 de Lewis Hamilton. On a très très bien joué le coup là chez Mercedes au moment des changements de pneumatiques, évidemment. C'est la joie. On termine avec 1 seconde 4 seulement d'avance sur Verstappen qui est remonté vraiment comme une balle dans les derniers tours. Donc le podium ce sera Hamilton, Mercedes, Verstappen, Red Bull, Norris, McLaren qui termine à 6 secondes de Verstappen, Piastri 4e, Sainz 5e, Hülkenberg 6e, Stroll 7e, Alonso 8e, Albon 9e et Tsunoda le dernier point. Leclerc termine 14e et Ocon 16e, un Grand Prix absolument haletant.
Voilà les gars, après un bel hymne effectivement britannique, God Save the King maintenant, c'était God Save the Queen pendant longtemps, mais là on a changé. Et puis la bonne nouvelle, c'est comme je vous ai donné le classement en direct, je ne vais pas vous le répéter pour le Grand Prix, allez quand même les positions au championnat. Verstappen qui prend 18 points, il porte son total à 255, Norris prend 15 points, il porte son total à 171, Leclerc ça reste bloqué à 150, et puis derrière on a Sainz qui lui prend 11 points, pour porter le total à 146. On a Piastri qui fait une belle opération, il monte à 124. Perez reste bloqué à 118. Et puis derrière, on a Russell à 111. On a Hamilton qui remonte très fort à 110, etc. Voilà, et au championnat constructeur, allez vite fait, on a Red Bull avec 373, Ferrari 302, McLaren qui se rapproche à 295, Mercedes 221, et puis après Aston est loin, 68, et RB 31. Voilà. Allez, on y va, on attaque dans le vif du sujet. Alors, bah tiens, pour changer, c'est pas toi qui vas parler le premier, Paul, c'est Hamza.
Je suis puni aujourd'hui.
T'es puni, voilà, c'est comme ça, ça t'apprendra. Alors, on va d'abord, évidemment, parler de cette victoire d'Hamilton, Hamza, parce que quand même, ça faisait longtemps, on l'a dit. Alors, raconte-nous ton sentiment. Est-ce que tu pensais qu'avec déjà les deux Mercedes en première ligne, ça paraissait possible ?
Bah évidemment, quand on a un et deux, là en l'occurrence, on a eu une course spectaculaire avec des circonstances météorologiques qui ont rendu cette course assez haletante. Mais à la régulière, lorsque tu as une écurie qui verrouille la première ligne, il faut au moins qu'il y ait une victoire. Et en l'occurrence, c'est arrivé dans des circonstances bien particulières. Mais le premier sentiment avant tout, c'est l'émotion, un peu comme Charles Leclerc qui gagne enfin à Monaco, un peu comme Norris qui enfin gagne son premier GP. Bah, cette saison, depuis quelques semaines, on commence à avoir des instants forts en émotion. Moi, dans mes souvenirs, j'ai rarement, pour ne pas dire jamais, entendu Hamilton pleurer à la radio.
Moi non plus.
Il a essayé
absolument
de contenir, mais c'est sorti naturellement.
Tout à fait. Et dans les bras de son père, hein, tu as vu.
Évidemment,
il sanglotait.
Et je repense forcément à ce pilote qui luttait pour le titre en 2021. Je ne suis pas sûr que lorsqu'il gagne son avant-dernière course désormais en Arabie Saoudite, à ce moment-là, qu'il puisse se dire c'est ma dernière victoire en Formule 1. Et il a dû attendre 2 ans et demi. Ouais. Peut-être qu'avec toutes les galères qu'a pu connaître Mercedes, notamment la saison 2022, où on rappelle qu'à Imola, il termine à un tour du vainqueur Max Verstappen, peut-être ne pensait-il plus jamais gagner en Formule 1. Alors la Mercedes est revenue petit à petit. Et aujourd'hui, il y a cette 104e victoire qui lui estime. Alors on sait aussi Hamilton dans la communication, il dit c'est la plus belle victoire de sa carrière, ou une des plus belles.
La prochaine sera la plus belle, bien sûr.
C'est ça, mais celle-là, je pense qu'elle aura quand même une place particulière dans son histoire en Formule 1. 9e victoire à Silverstone, il bat le record de Schumacher. C'est désormais le pilote à avoir le plus gagné de course
sur un même circuit.
Ce que je retiens dans un premier temps, justement, c'est l'aspect un peu émotionnel d'Hamilton.
Alors, Paul, un autre chiffre, le dernier, c'est le 6e vainqueur cette saison. Alors, le premier qui nous dit que la Formule 1, c'est toujours pareil, je ne lui parle plus. Paul, ton analyse sur cette victoire Mercedes, et en l'occurrence celle d'Hamilton, après on parlera du pauvre Russell.
Ouais, bien sûr. Alors c'est vrai que Jean-Luc, on en parlait la semaine dernière dans le podcast, dans le paddock F1, à savoir Mercedes qui gagne de nouveau avec George Russell. Il avait fallu évidemment des circonstances de course et l'accrochage entre Verstappen et Norris pour voir le Britannique triompher pour la première fois de la saison en volant d'une Mercedes. Et là, on se rend compte, et c'est vrai que Hamza le précisait, elles font 1 et 2 en qualification. On pouvait s'attendre à voir Mercedes dominer. Et moi, j'ai quasiment envie de dire qu'on en est presque à regretter que et McLaren et Mercedes n'aient pas été plus performants en début de saison, parce que alors là, au niveau du championnat du monde, du classement des pilotes, ce serait vraiment très serré, parce qu'aujourd'hui, Jean-Luc, tu rappelais le classement, c'est vrai que il a quand même aujourd'hui un boulevard d'avance à Max Verstappen qui a remporté 7 courses cette saison.
Il peut gérer
en revenant quasiment dans les échappements de Lewis Hamilton, hein, un tour ou deux de plus, et Verstappen s'imposer à Silverstone, ce qui veut dire que même si on dit que la Red Bull est aujourd'hui moins performante, c'est que c'est peut-être la McLaren qui est aujourd'hui la F1 de pointe avec la meilleure pointe de vitesse. On se rend compte quand même que Max Verstappen au volant de cette Red Bull est quand même ultra compétitif, mais c'est vrai qu'aujourd'hui Mercedes est en train de renaître de ses cendres. Victoire de Russell la semaine dernière, pole position de Russell devant Hamilton, victoire d'Hamilton. Le pauvre Russell, c'est vrai qu'on en reparlera, il y a eu un problème hydraulique durant la course, mais c'est vrai que ça fait plaisir. On aime tous la F1, on aime tous se régaler, on en a bavé avec les 3 années qui ont vu quand même Max Verstappen dominé de la tête et des épaules, et même si encore une fois le Néerlandais a gagné 7 courses cette saison, c'est aujourd'hui vraiment une vraie bagarre entre des teams qui s'envoient. On parle de McLaren, de Mercedes, de Red Bull, avec Ferrari un petit peu en retrait, mais c'est vrai qu'un vrai coup de chapeau à l'équipe de Toto Wolff qui est en train de retrouver le goût de la victoire avec Russell la semaine dernière, Hamilton cette semaine. Eh bien, n'en jetez pas plus, on a déjà hâte d'être dans 3 semaines pour le prochain Grand Prix, car c'est vrai que là il y a une vraie bagarre sur la piste entre ces 3 top teams.
Ah ben oui, puis à la longue, hein, je l'ai dit, 221 points au championnat constructeur. Bon, McLaren est quand même à 295 devant, mais enfin, ça les remet bien, bien dans le coup. Alors, question provocatrice, évidemment, Hamza, il a tort de partir chez Ferrari, Hamilton.
La sentais venir, Jean-Luc, celle-là.
Bah évidemment, on peut s'amuser.
J'aurais tendance à penser qu'on n'a jamais tort de rejoindre Ferrari.
Oui, t'as bien raison.
Et encore plus, lorsque l'on a la carrière de Lewis Hamilton. Il prend pas vraiment de risques. Alors on revient, on est en train de réécrire l'histoire, mais Si Ferrari, ça ne se passe pas comme il le souhaite, en l'occurrence avec un nouveau titre de champion du monde, il aura tenté sa chance et je pense qu'il aurait eu, lui, plus de regrets et nous aussi, plus de regrets de ne pas avoir une association Hamilton, qui est l'un des meilleurs pilotes de l'histoire, avec Ferrari.
Comme on l'aura toujours avec Ayrton.
Exactement.
Voilà, tu as parfaitement raison. Et la boucle est bouclée. Tu penses la même chose, Paul ? Non, c'était une question provoque, évidemment, hein, mais en plus, Ferrari va redresser la barre. Forcément, c'est une question de temps.
Ouais, alors je partage évidemment votre avis, hein. Lewis Hamilton, pour terminer sa carrière chez Ferrari, quoi de mieux, hein, aux côtés de Charles Leclerc, le protégé de la Scuderia Ferrari. Alors c'est vrai que lorsque vous évoquez ça, messieurs, moi je pense, tu évoquais le MotoGP en introduction, je oui. pense à Valentino Rossi qui avait tout gagné au guidon de la Honda, au guidon de la Yamaha, et qui avait voulu oui. eh bien rejoindre Ducati. Il s'était planté à Valentino Rossi puisqu'il avait ensuite terminé sa carrière chez Yamaha, mais à l'époque Ducati n'était pas encore le top team qu'il est aujourd'hui, hein, puisque c'est un team qui gagne avec Pecco Bagnaia. Alors évidemment, Lewis Hamilton chez Ferrari, tout le monde en rêvait. Eh bien, on l'aura la saison prochaine aux côtés de Charles Leclerc. Et tu as certainement raison de dire que avec Lewis Hamilton, Ferrari ne peut que progresser. Mais bon, c'est un baroud d'honneur au volant de cette Mercedes. Il attendait cette victoire et vraiment un grand coup de chapeau encore une fois à l'équipe de Toto Wolff et évidemment à Lewis Hamilton.
Et puis il voulait sortir par le haut. Bon, déjà ça c'est fait. Hein. Au moins cette saison, il aura au moins gagné un Grand Prix. Celui-là c'est fait. On verra la suite des opérations. Alors Hamza, on en vient évidemment à Russell, le pauvre. Alors une pole magnifique, une pole devant son public. Trois Britanniques aux trois premières places. Enfin, c'était d'ailleurs. J'ai trouvé qu'Hamilton, il faisait, même sur la grille de départ, il faisait un peu la tronche, quoi. Très clairement, il me disait, lui. Et puis le pauvre Russell, il n'a pas pu aller au bout de l'aventure, déjà.
Oui, on peut le voir de différentes manières. On peut être aussi pragmatique et voir le côté championnat constructeur, parce que t'avais. Mais c'est aussi le cas pour McLaren, c'est le cas pour plusieurs équipes. Enfin, non, pas Red Bull, du coup, parce qu'il n'y a pas Perez, mais. Tu peux te dire, Mercedes est passé aussi à côté d'un doublé aujourd'hui. Et pour le championnat, effectivement, mais moi, je verrais, parce qu'on rappelle que Russell a abandonné suite à un problème bien mécanique, j'aurais quand même tendance à ressortir le positif de ce Grand Prix pour Mercedes, de ce week-end même pour Mercedes. Le rythme pour la pole était là, ils ont verrouillé la première ligne. Le rythme pour gagner la course était là, bien ils l'ont fait. Remporté. Russell aussi était en bataille pour la victoire et c'est là où justement...
Très bonne stratégie également.
Exactement, oui, il n'y a rien à leur reprocher. C'est là où tu vois l'expérience aussi de Hamilton, c'est que Russell est en tête. Et à l'instant même où la pluie commence à s'abattre, Hamilton, d'un coup, d'un seul, il reprend 2 secondes sur Russell quasiment. Il distance aussi Lando Norris. Ouais. Et c'est là, en fait, sur ces instants clés de course, le plus important pour Hamilton, c'était... pas forcément de rester dans la zone DRS, mais de rester dans le rythme de course de George Russell. Et à l'instant même où il commence à pleuvoir, ben là, il fait la différence et Russell s'est fait avoir parce que forcément aussi moins d'expérience. Hamilton mais aussi, ça reste un pilote exceptionnel sous ces conditions changeantes, piégeuses. Et effectivement, derrière, le regret de voir Russell rentrer assez vite au stand pour abandonner, mais le rythme était là et on aurait pu avoir un doublé Mercedes.
Un mot sur Russell, Paul également, donc le vainqueur, tu le rappelais tout à l'heure, du dernier Grand Prix, hein, quand même, en Autriche. Il se la voyait belle, lui aussi, quand même, avec sa pole.
Ouais, je pense un petit peu comme Lando Norris, hein, depuis 3 ou 4 Grands Prix, hein, qui vise évidemment la victoire et qui n'y arrive pas. Alors, les circonstances de course, on l'évoquait en Autriche. C'est vrai que la pole position était magnifique de la part de George Russell, d'ailleurs, qui, depuis le début de la saison, on est à 10-2, hein, en qualification. Il domine quand même de la tête et des épaules Lewis Hamilton. Et comme Hamza l'a rappelé, pourtant, Lewis est quand même un pilote ultra rapide, hein, avec, je crois, 103 ou 104 pole positions à son palmarès.
Mais 104. C'est vrai que 104 victoires. Là, il a mis les deux compteurs au
voilà,
même
c'est
niveau.
Ça. Là. Voilà, c'est ça. Au moins, les comptes sont ronds.
C'est clair, on s'en rappellera.
Pour Lewis Hamilton, non, mais c'est vrai que on loue aussi la pointe de vitesse de George Russell, hein, avec cette nouvelle pole position. Peut-être, effectivement, que Mercedes a manqué aujourd'hui un doublé, mais quand on voit la joie quand même de Toto Wolff pour un team Mercedes qui a tant gagné depuis des années et qui, depuis maintenant 57 Grands Prix, n'avait plus vu Lewis Hamilton s'imposer, je pense que chez Mercedes, ce soir, on va se satisfaire évidemment de voir Lewis Hamilton s'imposer. D'ailleurs, messieurs, petite réflexion, Lewis Hamilton et Toto Wolff s'étaient entretenus après la victoire de George Russell la semaine dernière en Autriche. Et Toto Wolff avait dit, mais Lewis, je peux vous garantir qu'il gagnera lui aussi d'ici à la fin de la saison. Eh bien, la preuve en est que Lewis n'a pas mis longtemps, une petite de semaine pour lui aussi s'imposer lors de ce calendrier 2024.
Alors, grâce à Nico Le Dru, on va peut-être écouter justement la joie d'Hamilton qui hurle vraiment avec énormément d'émotion. C'était au micro de Canal.
You know, it's been since 2021.
Je n'avais plus gagné depuis 2021. Tous les jours, j'essayais de me battre. Je n'ai jamais lâché. J'ai toujours travaillé dur avec cette équipe fantastique. C'était mon dernier Grand Prix ici avec cette équipe. Je voulais gagner ici pour eux parce que je les aime énormément. Je serai toujours reconnaissant envers toutes les personnes qui travaillent ici chez Mercedes. Quelle fierté aujourd'hui.
Donc la joie d'Hamilton qui... ne pouvait même pas retenir ses sanglots dans la radio, hein, juste après avoir franchi la ligne d'arrivée, en parlant à son équipe. Et puis on l'a vu aussi, Hamza, on l'a vu étreindre Bono, son ingénieur, avec énormément d'émotion, qui est monté, lui, chercher le trophée constructeur sur le podium.
Si c'est la dernière fois, ouais. Et je mets un gros si, parce qu'aujourd'hui, la Mercedes revient sur le devant de la scène, et on le voit depuis le début de saison, c'est aussi une histoire de cycle. C'est pas parce qu'aujourd'hui Mercedes est devant qu'ils le seront sur toute la fin de saison, c'est pas parce que McLaren a été devant qu'ils le seront sur toute la fin de la saison. C'est une histoire de cycle, mais en l'occurrence, si c'est la dernière image sur un podium, ou même avec la victoire que l'on verra de Lewis Hamilton chez Mercedes, elle est plutôt belle. Et puis avec cet homme qui l'a accompagné, ces titres mondiaux et sur cette histoire aussi chez Mercedes.
Ouais. Une belle complicité. Allez, on passe à McLaren, Paul. Du coup, là aussi, il leur manque un petit quelque chose. Hein. D'ailleurs, Norris l'a dit après l'arrivée. Alors, on s'est arrêté un tour après Hamilton, un tour après Verstappen. C'est peut-être là aussi le tournant du match.
Oui, effectivement, et c'est un scénario, Jean-Luc, qui se répète quand même pour le pilote britannique qui, évidemment, a gagné sa première course cette saison à Miami et qui flirte souvent depuis maintenant quelques semaines avec la victoire. Mais encore une fois, il est rentré au 40e tour alors que ses adversaires, hein, que ce soit Max Verstappen ou Lewis Hamilton, sont eux rentrés au 39e. Un tour de trop qui aura peut-être coûté la victoire, quoique sur le rythme de fin de course, on a vu que Max Verstappen a été complètement déchaîné avec ses gommes dures, hein, et qu'il a littéralement mangé Lando Norris. Et puis il y a eu cet arrêt au stand puisque la voie des stands était encore un petit peu humide, hein. On a vu que lorsqu'il s'est immobilisé, il a un petit peu glissé, ce qui a perturbé quand même ses mécaniciens, et il a dans cette opération perdu deux secondes qui ont permis à Lewis Hamilton de reprendre le lead, donc à 12 tours de l'arrivée avec 2 secondes 5 d'avance, et ce qui a donc permis à Lewis de s'imposer et à Lando Norris de ne pas gagner aujourd'hui, et même de terminer à la 3e place puisqu'il s'est fait manger par Max Verstappen. Je pense qu'ils sont encore un petit peu, on le disait messieurs, ils sont encore un petit peu brouillons dans la finition, si je puis dire, et c'est ce qui coûte encore une fois aujourd'hui, je pense, la deuxième, voire la victoire à Lando Norris.
Hamza, et on va en arriver à Verstappen, bon, ils n'ont pas gagné cette fois-ci, mais il a toujours dit, les grands prix qu'il avait réussi à gagner avec une voiture inférieure, c'est parce qu'on fait tout parfaitement, et le jour où on fait quelque chose pas parfaitement en Formule 1 à ce niveau-là, c'est planté. C'est ce qui s'est passé pour McLaren.
C'est pas la première fois en plus qu'on le voit chez McLaren en début de saison. Je crois que c'était au Japon.
Au Japon,
où ils ont une stratégie, je trouve, pas assez agressive, où tu sens un peu la peur de mal faire. Et la peur de mal faire en Formule 1, quand t'es aussi resserré au niveau de la hiérarchie et des performances des différentes équipes, ça paye cash. Et tu te retrouves dans une situation où effectivement, la gestion déjà d'Oscar Piastri après le premier relais, je la comprends pas, parce que t'as deux pilotes, Norris et Piastri, qui se retrouvent en tête et qui se battent pour la victoire, et à aucun moment on se dit on va arrêter les deux en même temps quitte à perdre 3 secondes. Finalement Piastri, il fait le tour de trop et il s'arrête au tour suivant, sauf que la piste était détrempée et il perd au final une quinzaine de secondes alors qu'il aurait pu en perdre que 3 en s'arrêtant juste derrière Lando Norris. Et puis effectivement le dernier arrêt, il est étonnant parce que celui de Norris, alors oui, lui se trompe, effectivement, il arrive au stand, mais j'en voudrais jamais au pilote parce que la situation est compliquée, puis la pit lane, elle est effectivement humide et glissante, mais je ne comprends pas le choix parce que McLaren était la seule écurie à disposer de médium. Et à la radio, on pose la question à Lando Norris.
On les a mis à Piastri d'ailleurs.
Exactement, on pose la question à Lando Norris, on a des médiums et tous les pilotes d'ailleurs étaient au courant, les pilotes, donc Verstappen et Hamilton notamment, et chez McLaren, on dit à Lando Norris, Verstappen et Hamilton n'ont pas de médium. Donc, sous-entendu, on est bien au niveau de la stratégie si on doit finir la course sur le sec. Et finalement, on dit à Lando Norris, sur le tour suivant, puisque Verstappen et Hamilton s'arrêtent juste avant, on lui demande, Hamilton étant tendre, Verstappen étant dur, est-ce que tu veux couvrir l'une des deux stratégies? Et c'est là où est l'erreur, parce que manifestement, on n'a pas eu le retour du pilote, mais si on a chaussé les tendres à Lando Norris, c'est que manifestement, lui a quand même validé ce choix de mettre les tendres. Et c'est ce pourquoi on a vu un Lando Norris qui, pas seulement sur le top 3, mais sur le top 4, était même le top 5 avec Carlos Sainz, était le pilote le plus lent du top 5. Donc même s'il n'y avait pas eu cette erreur au stand et que Norris ressort en tête, probablement qu'il n'aurait pas gagné cette course.
Il n'aurait pas tenu, ouais, c'est clair. Bon, enfin, il en manque un peu, mais enfin, on va dire que le résultat global est quand même plutôt satisfaisant, c'est un euphémisme, hein, parce qu'on l'a dit, on en met un sur le podium, Norris, quand même devant le public britannique, c'est pas mal. Et puis, on a derrière Piastri qui termine juste derrière. Alors, les écarts sont réduits. Bon, Norris, il a perdu effectivement du temps dans le dernier relais. Il termine à un peu plus de 7 secondes. Piastri est derrière à un peu plus de 5 secondes entre les deux équipiers. Bon, j'allais dire, ça va venir. On va peut-être finir par y arriver, là aussi, en mettant tout ensemble. Alors, maintenant, on en arrive quand même à l'homme qui est monté au milieu des deux, c'est Verstappen. Alors Paul, on connaît ce talent extraordinaire, même s'il a semblé, c'est vrai, un peu perdu. Il l'a dit après l'arrivée, il a dit à un moment, je me voyais finir 4 ou 5e. Alors il faut reconnaître que là, lui aussi, sa monoplace a retrouvé, et avec lui à bord évidemment, toute l'efficacité dans le dernier relais.
Ouais, Jean-Luc, il reste phénoménal quand même, Max Verstappen, hein, parce que même en manquant quand même ses qualifications, hein, il arrive quand même à terminer deuxième. Vraiment, encore une fois, on le répète, mais s'il y avait eu un ou deux tours de plus, on peut penser qu'il aurait mangé la Mercedes d'Hamilton, et dans la gestion de son championnat, lui qui a quand même triple champion du monde en titre, qui a 61 victoires au compteur, lorsqu'il ne gagne pas, il termine sur le podium, il termine deuxième, il marque deux gros points, hein. Il fait encore une fois la différence, hein. Tu évoquais le surplace de Charles Leclerc dans sa Ferrari. Même si Norris termine sur le podium, c'est lui encore qui fait la différence. Donc j'ai encore une fois envie de dire, on se répète aussi, hein, mais un coup de chapeau à ce pilote qui avec sa Grinta et avec sa Red Bull qui marche peut-être aujourd'hui peut-être un petit peu moins bien que la McLaren, il arrive quand même encore une fois à faire des miracles. Ouais. Donc encore une fois un grand coup de chapeau à Max Verstappen.
Et oui, parce que Hamza, là, c'est un vrai juge de paix. On peut toujours dire les circuits, bon, on peut en discuter à l'envi. Bon, il y avait Barcelone qui était effectivement un juge de paix aussi, mais l'Autriche, c'est un peu un tourniquet, enfin, c'est un peu particulier. La Silverstone, c'est quand même la référence dans tous les sens du terme. Et puis, j'allais dire une chose qui est importante, il prend des points pratiquement à tout le monde, hormis naturellement au vainqueur du jour, mais il est tellement loin au général, donc c'est bien joué. Parce que derrière, bah, il prend 3 points à Norris. Et puis il en prend carrément 18 à Leclerc, Sainz également. Enfin,
ouais, bon. Mais il ne boxe plus dans la même catégorie, hein, ouais, Leclerc et Sainz comparé à Verstappen. Hein,
c'est clair.
On en revient à ce que l'on voit aujourd'hui de Max Verstappen, c'est qu'on a une impression plutôt négative dans le sens où aujourd'hui Red Bull n'a pas semblé avoir la voiture la plus dominante sur ce circuit. Et pourtant, quand tu fais le résultat comptable, bah, comme tu le dis et tu l'as très justement dit, c'est celui qui fait la meilleure opération à Silverstone. Et là aussi, tout à l'heure, je parlais de l'expérience pour Hamilton. C'est pareil pour Max Verstappen. C'est le premier à s'arrêter pour chausser les intermédiaires. Il s'arrête un tour avant tout le monde et deux tours avant Piastri. Et c'est ce qui lui permet de revenir dans la course parce que sur la première partie, sur le premier relais de course, il était beaucoup plus lent. Il a été déposé par l'intégralité des quatre pilotes en tête. Russell, Hamilton, Norris et Piastri. Oui. Soit ils étaient devant, en l'occurrence Russell, soit ils l'ont dépassé en piste. Et il est à ce moment-là incapable, Verstappen, de rester justement dans ce rythme. Donc, au moment où il commence à décrocher, il s'arrête un tour avant, et c'est ce tour qui fait la différence. Il redevient un candidat pour jouer la victoire ou le podium.
Et voilà, il s'arrête au 27e tour, c'est exactement ça. Et pile au bon moment, hein, de toute façon. Paul, il n'y a pas de secret, à chaque fois il rend grâce à son équipe. C'est rare qu'on se plante chez Red Bull, avec évidemment l'assentiment total du pilote, qui est, il faut toujours le rappeler, c'est lui qui est en piste. Et on a vu quelques réflexions, hein, aussi, quand les ingénieurs, eux, ont leur radar météo, etc., ils sont dans les stands, ils se basent sur ça pour dire, bah, il pleut à tel endroit, il va pleuvoir tant de minutes, etc., mais c'est le pilote qui dit non, c'est arrêté, ou au contraire ça empire. Donc là aussi, cette perception entre l'ingénieur et le pilote est déterminante, et c'est une des forces de Verstappen, Paul.
Ouais, et d'autant plus, Jean-Luc, qu'aujourd'hui il n'y a plus qu'un seul pilote, hein, chez Red Bull. Hein,
on peut dire ça comme ça.
Ouais, non, mais parce que on parle de Russell et d'Hamilton, on parle de Lando Norris et de Piastri, on parle également de Sainz et de Leclerc. Bah, chez Red Bull, hein, Sergio Pérez, en fait, ne court plus, il n'est plus là, quoi. Il n'est plus là. Donc encore une fois, le ressenti à l'intérieur de la monoplace, on se fie évidemment sur le savoir-faire de de Max Verstappen qui est immense aujourd'hui, mais encore une fois, il est aujourd'hui tellement esselé que il arrive encore à nous surprendre, à Max Verstappen. Et alors Jean-Luc, je vais te poser la question parce que tu suis la F1 depuis tellement longtemps. C'est vrai qu'on parle souvent de cette domination et tu nous as souvent parlé de Hamilton ou encore de Senna. Mais c'est vrai que Max Verstappen aujourd'hui est au niveau de ces pilotes-là.
Ah oui, pour moi, franchement, je pense qu'intrinsèquement aujourd'hui, et il est en train de le démontrer parce qu'il n'a pas la meilleure voiture, parce qu'effectivement, bon, il y a ce côté lassant, on l'a dit et redit, on l'a entendu tous de personnes qui aiment bien la Formule 1 mais qui ne sont pas passionnées, qui ne suivent pas tout, en disant « ouais, c'est toujours lui qui gagne, c'est rasoir ». Là, depuis là maintenant 4-5 Grands Prix, on veut dire que les résultats qu'il obtient, c'est vraiment lui qui va les chercher. Parce qu'il a tout, il a tout. Il a l'attaque, il a le talent, il a le savoir-faire. Il commet très peu d'erreurs, voire pas du tout. C'est absolument remarquable. Alors que j'étais en train de regarder le pauvre Pérez, ben, on l'a perdu après le Grand Prix des États-Unis. Quoi. En gros, Hamza...
Silverstone, Pérez, on ne l'a pas aidé à Silverstone dans le sens où lui se sort tout seul en qualif. Donc ça, c'est 100% de son fait.
Il fait la connerie.
Mais ce qui se passe en course, on a sacrifié Pérez justement sur la première partie de course en l'arrêtant. Oui. Ben, comme Charles Leclerc, très très tôt, pour mettre les intermédiaires alors que la piste n'était pas suffisamment sèche.
On l'a arrêté au 20e.
Effectivement, la course est terminée pour Pérez et pour Leclerc notamment.
C'est vrai.
Hamza, on peut quand même se poser la question de savoir pourquoi Pérez a re-signé pour deux saisons avec Red Bull quand même.
Ah, ça, c'est avec une option, d'après ce
avec
qu'on
une
sait.
Option, ça paraît complètement fou aujourd'hui.
Et il paraît qu'il y aurait, là aussi personne ne le sait, hein, personne n'a vu le contrat, mais qu'il y aurait une clause de résultat malgré tout. Donc là, et de performance. Donc là, je pense qu'effectivement, le plus important, on le sait bien pour les constructeurs, bah, c'est les points constructeurs. C'est ça qui rapporte beaucoup d'argent, hein. Donc, bon, pour le moment, ils ont de la marge, mais il n'y a plus que 71 points, plus que, je me permets de le dire, il ne faudrait pas que ça diminue trop notablement. Puis surtout, ils en ont deux au basque hein, maintenant. Ils ont McLaren et malgré tout Ferrari. Bon,
Et Jean-Luc, on peut d'ailleurs se poser la question, puisqu'on évoque le cas de Sergio Pérez, des bruits de couloir hein, disent que si Carlos Sainz aujourd'hui n'a pas encore signé l'une des propositions, que ce soit chez Alpine, chez Williams ou alors chez Sauber qui deviendra Audi en 2026, c'est peut-être parce qu'il y aurait une place qui se libérait ou chez Red Bull ou chez Mercedes.
Ou chez Mercedes, absolument. Ouais,
j'y crois absolument pas de Carlos Sainz chez Red Bull pour une raison simple, c'est que la cohabitation avec Verstappen s'était mal passée la première saison chez Toro Rosso. C'est vrai. On parle beaucoup de l'emprise de la famille et notamment du père Verstappen chez Red Bull. Oui. Bah, le père Sainz, c'est aussi quelque chose.
C'est vrai qu'il est toujours là dans l'ombre.
Je vois aucune chance pour que Sainz aille chez Red Bull. Par contre, Mercedes, même si tout semble fait pour Antonelli,
on sait jamais. Il faut reconnaître que c'est un gros pari sur l'avenir, hein, de toute façon. Et là aussi, bon, Wolff, c'est le patron, actionnaire aussi, mais enfin, il n'est peut-être pas tout seul à décider non plus. Peut-être qu'on lui dit, attends, si on le mettait encore à mûrir deux saisons, par exemple, chez Williams ou je ne sais où, ce serait peut-être pas mal. Hein. Enfin bon, à voir.
Après, est-ce que 2025, ce n'est pas le meilleur moment, dans le sens où 2026, c'est une nouvelle réglementation ? T'auras installé un jeune pilote qui n'était peut-être pas totalement prêt, mais qui va justement accélérer son processus d'apprentissage pour la nouvelle ère. Après, voilà, il y a beaucoup de questions.
Après, c'est pour ça que, de toute façon, ça risque de pas tomber tout de suite, hein, effectivement, puisque on le sait tous, c'est Sainz qui est vraiment dans, c'est comme aux échecs, hein, c'est le déplacement majeur, là, c'est
qui va conditionner
tout le reste. Alors, on va parler de Ferrari quand même. Il faut aller chercher loin.
Il faut aller chercher.
Il faut aller chercher. Alors, il a quel numéro, Sainz? Le 55, je vous le rappelle. Si je dis ça, c'est parce qu'il termine quand même à 55 secondes d'Hamilton. On appelle ça un gouffre.
Après, il s'est arrêté à la toute fin de course. Il s'est arrêté pour récupérer le point du tour.
Le point du tour, tu as raison.
Mais bon, c'est vrai que l'anecdote du 55.
C'est juste pour faire un clin d'œil. Mais tu as raison. Il l'a arraché d'ailleurs, ce point.
Il l'a arraché, mais on peut quand même se poser la question si Ferrari n'a pas un petit peu trop fêté la victoire de Charles Leclerc à Monaco, quand même. Parce que depuis la victoire de.
Ou ça va pas plaire à Fred, ça va se.
Non, mais franchement, les Ferrari sont garés. Alors, on parlait de la qualification, des deux qualifications manquées, hein, de Charles Leclerc, qui partait en 11e position cet après-midi à Silverstone. Alors, encore une fois, tu le disais, Jean-Luc, dans le sommaire, c'est vrai que Carlos Sainz limite la casse aujourd'hui en terminant 5e, avec quand même l'abandon de George Russell. Mais on a l'impression que les Ferrari n'avancent plus. Et Charles Leclerc, et dans une moindre mesure Carlos Sainz, c'est assez étonnant quand parce qu'on pensait vraiment que avec la victoire de Sainz, c'est la victoire quand même de Charles Leclerc à Monaco, les Ferrari allaient pourquoi pas se mêler à la lutte, hein, pour le championnat constructeur. En tout cas, ouais, se battre devant, là, elles sont carrément la quatrième force du plateau. On ne voit pas comment elles pourraient réagir dans les prochaines semaines.
Bah oui, surtout, là, je regardais là, depuis le Canada, bon, qui avait été un désastre absolu, hein, où ils prennent rien comme point. C'est vrai qu'après, on est vraiment dedans. Hein. C'est la quatrième écurie à marquer des points en Espagne. C'est la quatrième aussi, je ne dis pas de bêtises, ben oui, en Autriche. Et là, ben c'est encore la quatrième. Donc ça veut dire que, oui, on est en train de réguler fortement. Et puis, on l'a signalé tout à l'heure, hein, McLaren n'est plus qu'à une portée de canon. Là, ils sont à 7 points hein, seulement. Donc, si ça continue, ils vont se faire souffler le deuxième rang. Bon, on va espérer que pour le prochain, on y verra un petit peu plus clair en Hongrie. Mais alors, c'est encore un truc particulier, Hamza.
Ouais, c'est aussi une histoire, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est une histoire de cycle. Ouais. Je ne condamnerai pas Ferrari, mais de la même manière, je ne mettrai pas aujourd'hui Mercedes leader intouchable ou McLaren ces dernières semaines. Tout peut changer assez
d'ailleurs,
vite.
D'ailleurs, McLaren est là. On ne peut c'est pas ça. Dire que Mercedes soit...
Exactement. C'est une histoire de rapidité d'exécution dans justement l'apport de nouvelles évolutions. D'ailleurs, les nouvelles évolutions, elles ne semblent pas trop fonctionner. Chez Ferrari, on est revenu à une spécification antérieure. Aujourd'hui, effectivement, depuis plusieurs semaines, on peut s'inquiéter. Clairement. Parce que le rythme n'est pas là, ni en qualification, ni en course. Mais rien ne me dit que dans deux ou trois semaines, on ne verra pas de nouveau Ferrari se battre aux avant-postes.
Ouais, alors moi, j'émets quand même un petit doute, messieurs, parce qu'on évoquait la victoire de Carlos Sainz en Australie sur l'abandon de Max Verstappen. La victoire de Charles Leclerc à Monaco, on le sait, c'est un circuit en ville,
oui,
dans des conditions
atypique,
particulières, c'est très
ouais.
atypique. Donc, deux victoires cette saison, certes, ça a fait du bien à Ferrari, mais encore une fois, j'émets de gros doutes sur les performances à venir de la Scuderia. Enfin, je peux me tromper.
On va dire que ce n'est pas les régulières, ces deux victoires, effectivement.
C'est ça.
Première, c'est consécutivement au problème technique de Red Bull. Hein. Enfin,
alors que Mercedes a gagné à la régulière.
Absolument.
McLaren à Miami, c'est un fait de course encore une fois, même si Lando Norris tournait autour depuis quand même pas mal de temps. Hein.
Oui.
Donc, méfiance pour Ferrari qui, je vois la Scuderia continuer de plonger. Je ne demande évidemment qu'à me tromper parce qu'on adore tous Charles Leclerc et on aimerait le voir se mêler à la lutte, mais ça semble quand même aujourd'hui compliqué pour les hommes et les pilotes de Fred Vasseur.
Bon, on va voir. De toute façon, ce sont des machines énormes. Hein, et là aussi, même s'il y a une réactivité absolument fabuleuse, surtout là, on est en Europe, donc on apporte des nouveautés tout le temps. D'ailleurs, on les énonce pas à chaque fois, parce qu'à chaque fois, on retouche le fond plat, l'aileron, le museau. Enfin bon, tout ce qu'on peut retoucher, on le fait, c'est une évidence. Et puis après, les essais en soufflerie doivent se traduire. Et c'est bien ça qui est délicat. On l'a vu à plusieurs reprises.
Ah, Mercedes, ça a été la problématique ces deux ou trois dernières saisons.
C'est-à-dire que ce qu'on avait en soufflerie ne correspondait pas, malheureusement, sur la piste. Alors, on a heureusement du grain à moudre avec d'autres équipes, et c'est ça qui fait plaisir, parce que derrière, il faut parler de Haas, et là, il faut parler d'Hülkenberg, Hamza, parce qu'il est solide, hein, c'est à nouveau une sixième place. Il est vraiment là. Alors, bon, tu vas me dire, là, pareil, l'écart, il est loin lui aussi. Hein,
c'est pas le même championnat, c'est pas le même sport, j'aurais tendance à dire, mais... Déjà, à titre personnel, j'aime beaucoup ce pilote, Nico Hülkenberg, qui n'est pas estimé à sa juste valeur.
Il la ramène pas, lui, hein, en dehors de la piste.
Il traîne comme un boulet cette statistique du plus grand nombre de courses disputées sans podium.
Ouais.
Maintenant, si on voit le CV d'Hülkenberg, il n'aurait pas non plus pu avoir 150 podiums.
Non. Voilà, dans les écuries pour lesquelles il a roulé.
Ça vaut ce que ça vaut, mais c'était le deuxième choix de Mercedes et de Niki Lauda qui l'a publiquement répété à plusieurs reprises. Si Hamilton ne signait pas en 2013, c'est Hülkenberg. Et potentiellement, aujourd'hui, on parle d'un double, triple, quadruple champion du monde. Et forcément, l'analyse aurait été tout autre. Maintenant, pour
Haas, lui aussi ne commet pas d'erreur. Hein. C'est extrêmement
bien sûr,
rare.
Bien sûr, c'est un pilote extrêmement fiable qui, dès qu'il le peut, se retrouve en Q3. Dès qu'il le peut, se retrouve dans les points. Il avait déjà réalisé une course performante et prolifique en termes de points en Autriche. Et j'ai aussi envie de saluer justement le travail de Komatsu, le nouveau patron de Haas.
Oui, je crois qu'il y en avait un qui parlait beaucoup avant, mais Oui, enfin, bah, je veux pas être méchant. Mais...
tu parles de
Steiner.
Non, mais Komatsu,
c'est moins bien.
Il a ramené cet aspect un peu ingénierie, cet aspect technique au cœur de cette écurie. On n'est plus sur le show-off justement que tu peux évoquer avec Günther Steiner.
Oui,
aujourd'hui,
il s'est pris pour un autre, je crois.
Peut-être.
Bon,
et aujourd'hui, on se retrouve avec une écurie qui ne commet plus d'erreurs, qui parvient à développer sa voiture. On n'est plus sur la stratégie qui avait été celle de A ces dernières années. On développe une bonne voiture au début et puis après on apporte quasiment zéro évolution, ou bien peut-être une à Austin en fin de saison, et puis c'est une saison de figuration finalement. Aujourd'hui A se bat et devant Alpine au championnat, A se bat pour terminer 6e, 7e, et c'est une écurie qui progresse, et sincèrement ça fait plaisir,
et
ça fait plaisir
moment,
de voir une telle écurie qui devient performante, et peut-être que l'année prochaine on aura en plus un pilote français là-bas.
Et messieurs Hülkenberg qui mériterait quand même de terminer son chapitre, pourquoi pas avec As, avec un podium en Formule 1 quand même. Sur la boîte.
Ça ce serait formidable. Il faudra quand même un petit concours de circonstances, si je peux me permettre, parce qu'à la régulière, j'y crois pas trop, mais bon, ça peut toujours se produire.
Bah, disons qu'aujourd'hui, il termine 6e avec Russell, Leclerc et Perez derrière lui. Donc ça fait déjà 3 pilotes, ce qui veut dire qu'à la régulière, normalement, tu termines 9e.
Il est dans les points, quoi, oui.
Bon.
Écoute, oui, mais ça, tu sais comme moi, si on refait toutes les courses,
bien sûr.
Faut toujours être là pour recueillir les fruits qui tombent de l'arbre.
Ce que je veux dire, c'est qu'il aurait fallu, par exemple, un crash entre deux pilotes devant et encore un autre problème mécanique, par exemple, pour permettre à Hülkenberg d'arriver sur le podium. Mais c'est vrai qu'il mériterait ce podium pour récompenser cette longévité.
On connaît la pointe de vitesse du pilote allemand, lui qui a quand même remporté les 24 heures du Mans avec Porsche, qui a tourné quand même autour dans de bonnes écuries. C'est vrai que ça fait, Hamza, t'as raison de presser, que ça fait plaisir de voir ce pilote à ce niveau-là aujourd'hui, et qui va donc continuer sa carrière en Formule 1, on l'espère, avec pourquoi pas de précieux points et pourquoi pas des podiums. En tout cas, c'est tout le mal que l'on souhaite à Nico Hülkenberg.
Bah oui, il risque, bon, là aussi, il va y avoir une petite saison de transition, on va dire ça comme ça, probablement. Mais bon, comme on sait qu'il a signé effectivement pour une équipe qui devrait être puissante, ou en tout cas une marque qui a triomphé dans tous les domaines dans lesquels elle s'est engagée en matière automobile, donc ça va prendre peut-être un peu de temps, mais c'est un vrai pari sur l'avenir. Et puis là, bon, c'est une marque allemande, hein, une marque aux anneaux, vous voyez ce que je veux dire, et en plus c'est un pilote allemand, donc il n'y a peut-être pas de hasard non plus, mais bon, en tout cas c'est vrai que c'est bien pour lui. Et Magnussen même n'est pas très loin des points, hein. Il termine 12e, bon, ça veut dire que globalement la machine a bien progressé. Alors on continue dans la hiérarchie. Aston, là pour une fois, on peut en dire plus qu'un mot pour le moment. Qu'est-ce que tu en penses, Hamza?
Oui, j'étais très inquiet parce que c'est une écurie qui était en perdition, qui était trop loin du top 4, en l'occurrence Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes, mais qui était suffisamment, et encore, j'allais dire suffisamment devant des écuries comme Racing Bulls ou As, et pas toujours depuis le début de la saison. Donc voir Stroll et Alonso qui marquent enfin des points ensemble, ça, c'est forcément rassurant pour la course à domicile quand même d'Aston Martin. C'est l'écurie dont la structure est la plus proche de Silverstone.
C'est la porte à côté, hein.
Exactement. On peut vraiment le faire à pied, en l'occurrence.
Oui.
Et par contre, ouais, petite inquiétude quand même pour Fernando Alonso depuis quelques courses. Il est de moins en moins performant.
Ouais.
Et je sais pas ce que ça veut
de plus en plus, comme on veut, mais.
Ouais, alors moi, perso, je le prendrais dans l'autre sens, mais
ouais.
Je sais pas ce que ça veut dire, si c'est une question de motivation parce qu'il sent que le projet est en train de s'enliser, si c'est une question de performance de monoplace simplement qui peut-être ne lui correspond plus, mais à creuser. Attention, Alonso.
Ouais, non, mais c'est vrai, Paul, ton avis sur la question, c'est vrai que c'est étonnant de le voir maintenant devancé par Stroll, hein, là, ça fait un certain nombre de fois.
C'est pas la première fois, y compris en qualif aussi,
c'est ce que j'allais dire, et moi je partage les propos d'Hamza et certainement tes propos, Jean-Luc. Hein. Je ne pense pas que Lance Stroll aujourd'hui soit plus rapide, plus vite que Fernando Alonso. Franchement, je pense au contraire que c'est une petite perte de motivation. L'Espagnol aujourd'hui va avoir 42 ans, je crois, bientôt.
Cet été.
Le projet, comme disait Hamza, est en train de s'enliser chez Aston. Donc, peut-être que ça sent un petit peu le champ du cygne pour le pilote espagnol.
Peut-être l'arrivée d'un certain Adrian N. s'étant jamais. Je regardais. Et oui, son anniversaire, c'est le 29 juillet, exactement, pour être précis. Donc, effectivement, ça va être son 42e anniversaire. Et puis, bon, qui peut nier que malheureusement, le temps parfois fait son office. Et donc, oui, c'est pas grand-chose, mais même lui, hein, parce qu'on louait toujours son agressivité, son implication.
Je reste intimement convaincu, au fond de moi, il y a une part de moi qui me dit c'est une question peut-être de motivation, ou parce que Alonso, si tu lui ramènes demain une voiture qui lutte pour le podium,
oui,
la bête revient. Donc,
la bête est toujours là.
Ouais. 33, elle va arriver, cette 33e victoire, peut-être,
ouais,
peut-être l'année prochaine, peut-être dans deux ans, peut-être. Mais je suis pas sûr qu'il renonce si facilement.
Oui, moi non plus. Et puis, il a toujours dit, là, enfin, tu me diras les contrats et les affirmations en Formule 1, on sait ce que ça vaut. Peut-être pas pour Alonso, parce qu'il a dit que c'était vraiment sa dernière équipe, qu'il y croyait dans le projet. Maintenant, il a peut-être un coup de mou, on va le faire comme ça. Si l'Aston revient un petit peu aux affaires, peut-être que lui va retrouver un semblant de motivation. Allez, on continue, parce que derrière ce tir groupé, on a une Williams, messieurs. Alors, Paul, Williams, Mercedes, il faut le dire, avec Alex Albon. On l'avait mis pas de côté, mais bon, ça allait un petit peu moins bien pour lui. Et là, le voilà de retour.
Ouais, c'est un petit peu, alors peut-être dans une moindre mesure que lorsque l'on évoquait le cas de Nico Hülkenberg, mais Alex Albon est bon quand même depuis le début de la saison. C'est vrai que ce résultat tardait à venir, mais de le voir marquer de gros points sur un tracé aussi technique que Silverstone, ça veut dire que le pilote est bon et que la Williams aujourd'hui est aussi une monoplace performante qui peut se battre comme Haas, comme Alpine pour intégrer les points, et Alex Albon avec son capital sympathie fait plaisir à voir, et encore une fois ce sont de gros points mérités pour le pilote de la Williams.
Oui. Alors la question, Hamza, que je vais te poser évidemment, c'est son équipier. Alors on a entendu beaucoup de bruit là dans le paddock qui court toujours, le pauvre Logan Sargeant. Alors moi je trouve que globalement il a progressé, il est aux portes des points là encore, vraiment. Il est plus très très loin d'Albon, quand même une sacrée référence. Autant, il y a des coups, il était indéfendable hein, déjà les erreurs qu'il commettait. Mais là, il redresse un tout petit peu la barre. Est-ce que ça va être suffisant déjà pour sauver le baquet jusqu'à la fin de la saison ?
C'est ça, c'est la question. Aujourd'hui, on a une écurie. Contrairement à l'année dernière où Williams récoltait justement les miettes, c'était As en fait, Williams, la saison dernière, et tu avais un Albon qui scorait quasiment tous les points.
Ouais.
Là, on a une écurie, mais il y a des explications et ce serait très très long à développer parce qu'il en a parlé notamment James Valves, le patron de Williams, mais ils sont en train de restructurer en fait la manière de bosser chez Williams. Ils avaient 20 ans de retard sur la manière de travailler. On était encore sur des documents Excel qui ne servaient pas à grand-chose.
Un très long entretien
et passionnant de la part de James Valves.
Ouais.
Mais ils sont en train de en fait restructurer totalement la manière de travailler, et forcément ça demande et ça nécessite du temps. Et sur cette saison, il l'a dit dès le début de saison, 2024, en quelque sorte, une saison sacrifiée par Williams.
Pour mettre les bonnes méthodes en place.
C'est ça, pour l'avenir et notamment post-2026. Et pour revenir sur Logan Sargeant, effectivement, tu sens du progrès un peu timide, mais ce sera peut-être pas suffisant pour garder son baquet la saison prochaine.
Ouais.
Et peut-être même cet été un remplacement, parce que Valls n'a pas souhaité... publiquement défendre son pilote comme ça avait été le cas la saison dernière. Là, il n'a pas démenti un éventuel limogeage de Sargeant.
Ouais. Bon, on verra bien ce qui se passe. Enfin, moi, je suis toujours un peu gêné quand on débarque les pilotes en cours de saison, honnêtement, à moins ceux qui commettent des grosses erreurs, et je dis ça, et ça continue. Pérez, je me demande s'il va aller au bout de sa saison, si ça continue. Bon, on sait qu'il y a des enjeux économiques aussi, hein, quand même, parce qu'il ne vient pas les mains vides, mais bon, passons. Allez, on va fâcher personne, et puis on va parler, Paul, de la dernière équipe qui prend des points, RB, Honda, quand même, il faut le rappeler aussi, avec Tsunoda. Bah, lui aussi s'est bonifié, alors bon, il a vu les portes de Red Bull se lui claquer au nez, parce que lui, on n'en parle plus du tout, mais bon, il fait le boulot, hein, quand même.
Il fait le boulot et il marque encore une fois un point qui lui fait du bien. On en parlait d'ailleurs, Jean-Luc, depuis le début de la saison dans le podcast, en disant que c'était vraiment un pilote qui était en train de monter, de progresser au volant d'une monoplace qui est aujourd'hui très modeste. Mais c'est vrai qu'il marque encore des points, et je pense que après avoir pris un coup derrière la tête, et voir, comme tu le précisais, les portes de Red Bull se refermer, il lutte avec sa monoplace, et moi je trouve qu'il y arrive quand même plutôt pas mal. Et d'ailleurs, on peut dresser un parallèle, parce que lorsqu'on évoquait le cas d'Alexander Albon, qui lui aussi avait été évincé de Red Bull, qui a mis du temps à remonter la pente, on peut penser dans une moindre mesure que Yuki Tsunoda aujourd'hui est assez bien dans cette équipe-là, et preuve à l'appui encore une fois sur ce tracé si spécifique de Silverstone, de le voir marquer un point. Je pense que ça va booster sa confiance pour le reste de la saison.
Et puis bon, tu me vois venir, évidemment, Hamza, la question qui se pose, c'est Daniel Ricciardo, qu'on aime tous beaucoup, parce que c'est un type sympa, parce qu'il a quand même un palmarès aussi, il a quand même des victoires et tout. On a cru un moment que peut-être ça allait revenir, et puis là, bon, qualifié 15e, là où Tsunoda est qualifié 13e, et puis surtout, bah, y en a un qui est dans les points, une nouvelle fois, c'est le japonais.
Hein. Ouais. Ouais, ouais. Et pourtant, la petite musique là qui s'installe de nouveau, c'est ouais. que Pérez, s'il est débarqué en cours de saison, ben c'est Ricciardo qui le remplacerait.
Personnellement, j'y crois pas. Mais bon.
Moi non plus. Je pense que Pérez terminera la saison. Ouais. Maintenant, dans la lutte pour un championnat, ça pourrait être problématique si le pilote numéro 2 n'est pas là.
Objectivement, et là je vous pose la question à tous les deux. On commence par toi, Hamza. Puis je vais pas me défiler, je répondrai. Tu crois que Ricciardo aujourd'hui ferait mieux que Pérez chez Red Bull?
J'en suis pas sûr. Enfin, j'en suis pas sûr. Et pour parler d'entretien encore passionnant, je vous invite à écouter celui d'Albon. C'est en cours lors de l'intersaison. Cet hiver, où il expliquait ce que c'est de piloter une Red Bull. Ouais. Lorsque tu n'as pas le style de pilotage, parce qu'on rappelle que Max Verstappen a un style singulier qui ne correspondrait peut-être à aucun autre pilote, ou presque, sur la grille. Et il disait, en fait, personne ne peut le comprendre, mais imaginez-vous, vous, sur votre ordinateur, vous prenez votre souris, vous mettez la sensibilité du curseur à son maximum, et à peine vous touchez la souris,
crac, elle réagit.
Exactement, elle réagit, elle se retrouve à l'opposé. Et il disait, Albon, c'est exactement ça aujourd'hui de piloter. On a eu Gasly, ça n'a pas marché. On a eu Albon, ça n'a pas trop marché, même s'il n'a pas été ridicule, qui étaient des jeunes pilotes. On a installé Pérez, qui est un pilote d'expérience. Ça a marché un temps, aujourd'hui ça ne marche pas du tout.
Ouais. Si ça demain tu mets Ricciardo... On rappelle vice-champion du monde quand même.
Bien sûr,
Il a pris des gros points.
Bien sûr, si Ricciardo demain est à la place de Pérez, si demain c'est Tsunoda, si demain c'est Pierre-Paul Jacques, j'ai pas la certitude aujourd'hui qu'il soit à la hauteur de Max Verstappen et qu'il soit capable d'amener cette voiture sur la première ligne, sur la deuxième ligne ou sur la troisième ligne. Dans une F1 aujourd'hui aussi concurrentielle, c'est compliqué.
Être à la hauteur de Max Verstappen aujourd'hui, c'est mission impossible pour n'importe quel pilote, peut-être à l'exception de Charles Leclerc ou de Lewis Hamilton, et encore. Mais c'est vrai que c'est aujourd'hui compliqué, même si quand même on va rappeler que les victoires en Formule 1, Daniel Ricciardo les a obtenues au volant quand même de la Red Bull.
De la Red Bull, bien sûr.
Quand même, on se rappelle ce terrible accident à Bakou où les deux pilotes s'étaient percutés. Daniel Ricciardo, c'est vrai, aujourd'hui est peut-être au crépuscule de sa carrière. Mais quand on voit quand même, encore une fois, on l'évoquait tout à l'heure, les performances de Sergio Pérez, je vois mal Daniel Ricciardo ne pas faire mieux s'il devait demain monter dans le baquet de la Red Bull.
On va terminer bien sûr avec Alpine parce que malheureusement, bon, vu d'où il partait, Paul, on pouvait être inquiet. Et puis le pauvre Pierre Gasly n'est même pas sorti des stands au moment du départ. Pourtant, on avait changé beaucoup de choses sur sa machine. C'est même la raison pour laquelle il avait toutes ses pénalités. Quant à Esteban, on va dire qu'il a été quasi inexistant, quoi.
Ouais, c'est ça. Et c'est assez surprenant parce que les Alpines restaient quand même sur des performances de tout premier ordre, des qualifications en Q3, souvent dans les points, les deux monoplaces. Et là, c'est vrai que bon, le problème, tu l'évoquais, Jean-Luc, le problème de Gasly qui n'a même pas pu prendre le départ de cette course. Et encore une fois, Esteban Ocon, anonyme dans ce Grand Prix d'Angleterre. Mauvais chapitre. J'espère que ce n'est pas une mauvaise passe pour l'écurie française. En tout cas, c'est un Grand Prix, évidemment, à oublier pour les Bleus.
Et puis on va arriver, Hamza, justement, sur le tracé, la Hongrie, où Esteban s'était imposé dans des conditions particulières. On le sait bien, ça veut dire qu'il y a eu du ménage au moment du départ.
Il y a eu un bowling au premier virage.
On est d'accord.
Ce qui a profité.
Il était là, lui aussi. Il était là. Donc oui, Alpine, on est toujours gêné pour en parler dans ces situations-là.
Et le pire, c'est que comptablement, ils n'étaient pas si mal il y a deux semaines.
Ouais.
Mais que là, coup sur coup, As, je crois, de mémoire, corrige-moi si je me trompe, Jean-Luc, je crois que c'est 16 points en Autriche et 8 désormais aujourd'hui à Silverstone. Ouais. Et là, ça fait quand même.
12 et 8.
12 et 8. Donc ça fait 20 points. Ça fait une différence aujourd'hui très importante avec 18 points d'avance.
Il est bloqué à 9.
C'est ça. Et autant 18 points, ça peut sembler, lorsque l'on parle de F1 avec la victoire à 25 points, ça peut sembler vite rattrapable.
On n'est pas dans les mêmes eaux là.
Exactement. Lorsque l'on bat et chaque course, c'est 1 point, 2 points, 4
maximum.
Points, c'est déjà un miracle, il va falloir les rattraper, ces points de retard. Donc effectivement, il va falloir vite résoudre ces problèmes, parce que ce n'est pas la première fois justement que Gasly a ces problèmes de boîte de vitesse pour espérer revenir dans la lutte pour la 7e, voire même 6e place.
Écoutez, on s'est régalé. J'espère que vous aussi.
Comme d'habitude.
Comme d'hab. Bon, ben, on va avoir un petit break, enfin un peu très léger, hein, puisqu'on va se retrouver pour la Hongrie. Donc le fameux tourniquet hongrois, celle-là aussi, je la rate jamais, évidemment. Merci beaucoup, Hamza, d'avoir
merci
été avec
vous.
Nous. Merci à toi, Paul.
Merci Jean-Luc, merci Hamza, c'était un plaisir.
On se retrouve pour le prochain Paddock RMC. Et n'oubliez pas de nous noter, de préférence des bonnes notes, évidemment, on est sages comme à l'école. Allez, salut à tous. Ciao.
Le Paddock RMC.